de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ce soir, vous êtes avec moi, Audrey. Je suis très heureux de vous retrouver à l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition de vendredi, le 7 février 2020. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et bientôt, nous allons commencer avec le journal d'aujourd'hui, les commentaires et d'autres infos. Entre autres, l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur, des chansons indonésiennes et magazine musical. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 et 4750 kHz. Et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie avec moi Audrey. Vous allez écouter le journal d'aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques informations importantes, entre autres. Jokowi visitera l'Australie pour discuter de la ratification de l'IACPA. Le sous-ministre de la Défense encouragera la numérisation de la défense. La promotion du tourisme à l'est de Flores est aidée par le ministère des villages, des régions défavorisées et de la transmigration via des applications numériques. Les législateurs soulignent l'accord de partenariat indo-australien pour protéger les petites et moyennes industries. En manque d'approvisionnement, la Thaïlande pousse les gens à fabriquer leurs propres masques. Et les manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de France pour exiger le droit à la retraite. Mon cher Gélitard, voici les nouvelles en complet. Jokowi visitera l'Australie pour discuter de la ratification de l'IACPA. Le président Jokowi Dodo effectuera une visite d'État en Australie du 8 au 10 février 2020. Le programme principal est la coopération économique, en particulier en ce qui concerne le partenariat stratégique global Indonésie-Australie-IACPA, qui entre dans la phase finale du processus de ratification. Cela a été dit jeudi par le porte-parole par intérim du ministère des Affaires étrangères, Teuku Faizasha, à Jakarta. Un accord de partenariat économique global signé le 4 mars 2019 serait bénéfique pour l'Indonésie pour améliorer la compétitivité des ressources humaines, de l'industrie et du secteur des services. En outre, cet accord devrait également accroître l'accès au marché pour les biens et les services de l'Indonésie à l'Australie. La visite du président Jokowi à Canberra fait partie de la réunion annuelle des dirigeants ainsi que pour commémorer 70 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et l'Australie. Le sous-ministre de la Défense encouragera la numérisation de la défense. Le sous-ministre de la Défense, Sakti Wahyu Trenggono, encouragera la numérisation de la défense conformément à la révolution mondiale de la gestion de la défense avec les progrès technologiques. C'est ce qu'a affirmé Sakthivahu Trangono à travers une déclaration écrite reçue à Jakarta jeudi. Selon lui, le développement mondial nécessite certainement un changement de mentalité dans les futures stratégies de défense. Trangono a déclaré que l'ère numérique a changé le paysage d'une guerre lorsque le cyberspace et l'espace deviennent une partie stratégique d'un pays, en plus des territoires terrestres, maritimes et aériens. Cela fait du courant et de la sécurité des données à une partie importante de l'armée moderne. La promotion du tourisme à l'est de Flores est aidée par le ministère des villages, des régions défavorisées et de la transmigration via des applications numériques. Le ministère des villages, des régions défavorisées et de la transmigration contribuera à promouvoir le tourisme dans la région de l'Est de Flores, en province de Nusa Tenggara Est, à travers de l'application numérique de Gower. Comme indiqué par le régent adjoint de Flores Oriental, Agustinus Payong-Boli, jeudi à Coupang, Nusa Tenggara Est, il a expliqué que l'application des Gowers appartenant au ministère des villages, des régions défavorisées et de la transmigration compte jusqu'à 400 000 utilisateurs, répartis dans plus de 25 villes d'Indonésie. Désormais, seules les ressources humaines des employés de l'Office de tourisme de l'Est de Flores doivent être préparées afin de pouvoir gérer les applications numériques de manière durable et responsable. Le législateur souligne l'accord de partenariat indo-australien pour protéger les petites et moyennes industries. Le membre de la Chambre des représentants de l'Indonésie de la faction du Parti de la justice prospère PKS, Nevi Zuairina, souhaite que des accords commerciaux internationaux avec un certain nombre d'autres pays soient en mesure de protéger les petites et moyennes industries dans le pays. Nevi Zuairina à Jakarta a souligné jeudi que dans l'accord de partenariat indo-australien IACPA, l'Indonésie doit libérer jusqu'à 10 813 articles des marchandises importés d'Australie, tandis que l'Australie ne libère que 6 474 articles des marchandises importées d'Indonésie. En outre, en 2018, la balance commerciale de l'Indonésie avec l'Australie a enregistré un déficit d'environ 3 milliards de dollars américains. Pour cette raison, elle souhaite que divers accords de coopération commerciale au niveau international soient étudiés de manière approfondie afin de bénéficier de tout le peuple de l'Indonésie. En manque d'approvisionnement, la Thaïlande pousse les gens à fabriquer leurs propres masques. Les autorités sanitaires thaïlandaises poussent les gens jeudi à fabriquer leurs propres masques antiseptiques et désinfectants pour les mains à la maison pour se protéger de la propagation du virus corona. La Thaïlande, qui a signalé un total de 25 cas, a placé les masques chirurgicaux et les nettoyants antiseptiques sous la liste des articles contrôlés plus tôt cette semaine, car la propagation du virus a entraîné des limitations dans les magasins. Par conséquent, les autorités sanitaires thaïlandaises ont montré comment rendre le liquide de nettoyage fluide lors d'une conférence de presse diffusée à la télévision. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé publique Anutin Charnfirakul lors d'une conférence de presse. Jeudi, la Thaïlande a commencé à imposer un contrôle des prix sur les masques et les désinfectants pour les mains, au milieu de fournitures dans les magasins d'éclaircies. Par conséquent, toute personne qui vend des masques et des produits nettoyants à des prix élevés peut être condamnée à une peine de prison allant jusqu'à 7 ans ou à une amende pouvant atteindre 140 000 bahts. Les communautés sont autorisées à acheter jusqu'à 10 masques en une seule transaction et toute personne qui exporte plus de 500 masques doit d'abord obtenir l'autorisation de l'autorité commerciale. L'enseignement des sciences et des mathématiques en Malaisie est revenu à l'anglais. Le gouvernement malaisien appliquera à nouveau l'enseignement et l'apprentissage des sciences et des mathématiques en anglais introduit en 2003, puis annulé en 2012. L'affirmation a été transmise jeudi par le premier ministre malaisien Mahathir Mohamad au conseil d'administration et aux aspirations du premier ministre et du ministre de l'Éducation, ainsi que par les résidents du ministère de l'Éducation au Putrajaya International Convention Center. Mahathir a déclaré que la science n'est pas statique, car il y a toujours un renouveau, ce qui rend difficile l'interprétation du malais. Mahathir a déclaré que de nombreux nouveaux mots ont été créés, de sorte que si vous ne disposiez pas des dernières connaissances, vous seriez laissé pour compte parce que vous n'avez pas utilisé ces connaissances. La politique a conduit à des protestations et a été annulée en 2012 avant que le ministère de l'Éducation n'introduise le programme de base de double langue DLP en 2016 qui donnait aux écoles le choix de l'autodétermination si elles voulaient enseigner les sciences et les mathématiques en anglais. Les manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de France pour excuser le droit à la retraite. Une grève interprofessionnelle a de nouveau éclaté en France le jeudi 6 février 2020. Des manifestants des diverses professions sont descendus dans la rue pour exiger que le gouvernement français ignore la politique du système de retraite du pays. C'est ce qu'a rapporté RFI sur son site internet le jeudi 6 février 2020. Selon le reportage de RFI.fr, les manifestants à Paris avaient entamé une longue marche jeudi après-midi à 13h30 heure locale de la gare de l'Est à l'est de la ville jusqu'à de la Nation au sud de Paris. Cette action n'a pas seulement été menée dans la capitale. Des actions similaires ont également été menées dans plusieurs villes de France. Le syndicat qui a coordonné la manifestation a de plus en plus lancé ses actions sauvages pour créer le chaos. Ils ont bloqué les usines d'incinération des déchets urbains, ce qui a provoqué des tas de déchets sur les trottoirs. Après la manifestation, le syndicat extrémiste de la CGT a tenu une réunion avec ses alliés pour décider de poursuivre ou non son action revendicative. Chers auditeurs, c'était les nouvelles.
Chers auditeurs, voici le commentaire et pour le titre « Donald Trump est libre de la mise en accusation ». Au procès de la mise en accusation du président des États-Unis, Donald Trump, au niveau du Sénat, avait rencontré le tour final. Le Sénat a choisi de libérer Donald Trump pour l'abus de pouvoir et entrave au Congrès. 48 sénateurs ont déclaré Donald Trump coupable d'abus de pouvoir, tandis que 52 autres sénateurs ont choisi de le libérer. Cette conclusion est-elle tirée après la tenue du procès pendant près d'une semaine, jusqu'à ce que le Sénat rejette les demandes des démocrates de présenter de nouveaux témoins à l'audience. Avant Donald Trump, l'histoire américaine a enregistré il y avait deux présidents américains, Andrew Johnson et Bill Clinton, qui sont annulés pour la mise en accusation. Un autre président américain impliqué dans l'enquête de mise en accusation, Richard Nixon, a démissionné avant sa mise en accusation qui était presque certaine. certaine de se produire parce qu'il a tenté de cacher son rôle dans le vol de matériel de campagne démocrate. Une chose intéressante à regarder est le niveau de popularité de Donald Trump et de son cabinet au milieu du processus de la mise en accusation. Le classement de l'acceptation publique du président Donald Trump aurait atteint le plus haut niveau au milieu du processus de la mise en accusation contre lui. Une enquête menée par l'Université CUNY, Trump a reçu 43% du classement de l'acceptation du public, le plus élevé pendant son mandat à la Maison-Blanche. Le collège a indiqué que l'acquisition élevée de l'acceptation publique était due au renforcement de l'économie américaine ces derniers temps. Selon 73% des répondants, l'économie américaine est actuellement en bon état. Bien que personnellement, Donald Trump suscite toujours la controverse non seulement en Amérique, mais aussi dans divers autres pays, il s'avère que la mise en accusation n'est pas liée à la performance de la personnalité, que quelqu'un l'aime ou non. Par exemple, l'histoire américaine a enregistré que le Congrès américain a déposé l'article sur la mise en accusation contre le président américain Andrew Johnson, successeur d'Abraham Lincoln, après que Johnson a destitué le ministre américain de la guerre Edwin Stanton. Johnson a été une figure pro-Union, mais n'a pas pleinement soutenu l'ère de la reconstruction après la guerre civile. Johnson s'oppose souvent au Congrès américain lorsque les législateurs tournent l'aide aux Noirs américains déplacés. Johnson a été mis en accusation le 24 février 1868, mais a été libéré lors d'une audience au Sénat américain. Il peut rester en fonction avec indifférence d'un vote au Sénat. Tout simplement, parce qu'un président n'est pas aimé, cela ne signifie pas que la mise en accusation se produira positivement. Serge Dutard, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 7 février. Le 7 février 1965, les États-Unis ont commencé à bombarder le Vietnam Nord. Après avoir évacué la dernière famille américaine au Vietnam, l'armée de l'air des États-Unis a commencé à lancer la première frappe aérienne directe contre le Vietnam Nord le 7 février 1965. Le but des États-Unis et du gouvernement sud-vietnamien était d'endommager le réseau d'approvisionnement d'armes et de carburant pour les communistes nord-vietnamiens. Le bombardement a marqué le début de la deuxième guerre d'Indochine. En mars 1965, des milliers de marines américains au Vietnam Sud se sont battus contre la partie nord-vietnamienne. Ensuite, le 7 février 1986, le soulèvement haïtien contre le président Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier a été président d'Haïti de 1971 jusqu'à son renversement par la rébellion en 1986. Il a succédé à son père, François Papdoc Duvalier, comme dictateur d'Haïti depuis la mort de son père en 1971. Le 7 février 1986, le soulèvement haïtien a été la réponse et la protestation pendant 3 mois contre l'oppression politique et économique d'un gouvernement autoritaire du dictateur Jean-Claude Duvalier. À la suite d'un soulèvement populaire, le dictateur haïtien s'est enfui avec sa famille et s'est installé en France. Le départ de Duvalier a également pris des milliards de dollars sur les fonds détournés d'Haïti. Le 7 février 1992, l'accord de Maastricht a été signé. Le traité de Maastricht où l'accord sur l'Union européenne a été signé le 7 février 1992 par 12 pays membres de la Communauté européenne à Maastricht, aux Pays-Bas. Le projet de traité de Maastricht a été élaboré lors du Conseil européen du 9 au 10 décembre 1991 dans la ville de Maastricht. Le traité de Maastricht a encouragé la formation de l'euro et a créé trois piliers de l'Union européenne, à savoir la communauté européenne, la politique étrangère et la sécurité commune, et la justice et les affaires intérieures. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Awalnya ku selalu duluan memanggilmu, sekarang diriku membisu. Canda tawa pernah menjadi bahasa kita, namun semua telah berubah. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Straight away I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I am. Aku merasa yang terutama, aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia, sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I envy you.
Restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le temps pour mon Indonésie intitulé « Pour augmenter la surveillance marine, Les douanes d'Indonésie et Singapour signent un protocole d'accord. Bonne écoute.
Serge-Jutor, pour la rubrique suivante, voici mon Indonésie et pour le titre. Pour augmenter la surveillance marine, les douanes d'Indonésie et Singapour signent un protocole d'accord. Le bureau indonésien des douanes et la garde côtière de la police de Singapour ont convenu un protocole d'accord dans le contexte du renforcement de la surveillance maritime dans la zone frontalière maritime. Le mémorandum d'accord a été signé par le directeur général des douanes du ministère des Finances, Heru Pambudi, et le commandant des gardes-côtes de la police singapourienne, Chiang Keng Keong, au siège des douanes à Jakarta le 3 février. Heru Pambudi, dans une déclaration officielle mardi, a déclaré que le protocole d'accord était destiné à servir de base à la coopération dans les sens d'information pour prévenir et combattre la contrebande et d'autres formes de criminalité organisée, ainsi que pour permettre aux deux parties de travailler ensemble dans les patrouilles maritimes coordonnées. En tant que lieu de passage des navires intercontinentaux et interocéaniques, la frontière maritime entre l'Indonésie et Singapour devient une voie stratégique remplie d'activités maritimes internationales et il doit y avoir une surveillance de cette route. Heru Pambudi a déclaré que la coopération a également été menée pour empêcher la contrebande des marchandises, des stupéfiants, des psychotropes et des précurseurs ou d'autres marchandises illégales. Il est à craindre que des pratiques illégales puissent être utilisées pour financer d'autres activités criminelles plus grandes, comme la criminalité transnationale organisée ou le terrorisme. Les deux parties collaboreront également pour améliorer la capacité des ressources humaines et des institutions à travers divers programmes d'éducation et de formation et de renforcement des capacités pour la réalisation d'une supervision forte et efficace. Cette coopération devrait garantir la traversée maritime reliant les deux pays des marchandises qui peuvent menacer la sécurité et la survie de la communauté et protéger le monde industriel contre la menace d'une concurrence déloyale de la circulation des marchandises illégales qui peut réduire la compétitivité des industries nationales. Serge Ritor, c'était mon Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 et 4750 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le site Gunung Suspension Bridge à Java West, ou bien en français, le pont suspendu de Situ Gunung. Bonne écoute. Chers auditeurs, on se rencontre encore dans l'émission Le magazine culturel avec moi, Audrey. Ce soir, je vais vous présenter Situ Gunung Suspension Bridge à Java West. Alors, restez bien avec nous à RRI World Service Voice of Indonesia. Chers auditeurs, pour vous qui aimez voyager à l'adrénaline, vous devez visiter l'attraction Situ Gunung Suspension Bridge, ou bien en français, le pont suspendu de Situ Gunung. Comment ça, ça ne stimule pas l'adrénaline? À une altitude de près de 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, il faut longer le pont de long de 243 mètres et 2 mètres de large, où l'on sent parfois un petit tremblement. Pour vous qui êtes intéressé, visiter le pont suspendu Situ Gunung situé à Sukabumi, dans l'ouest de Java, de Jakarta. Il est accessible à environ 1,5 à 2 heures en voiture. Cette attraction touristique est ouverte tous les jours de 8 heures à 16 heures. Le prix d'entrée est de 50 000 de roupies pour les adultes, alors que les enfants de moins de 9 ans et de 25 000 de roupies. Gratuit pour les 65 ans et plus, les tout-petits et les personnes handicapées. Ce billet est en fait un forfait de tourisme naturel cascade de la jungle, y compris pour entrer dans le lac Situ Gunung à Curug Sawer, un verre de bienvenue qui peut être pris à la cafétéria qui a un balcon pour regarder vers le pont. Ce billet comprend également un harnais prêté qui doit être porté lors de la traversée du pont. Chers auditeurs, le pont suspendu de Situ Gunung a été inauguré le 9 mars 2019 par le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut Binsar Panjaitan. Le pont à pied Merbau peut être franchi par un maximum de 40 personnes. longueur du pont de 243 mètres, largeur de 180 mètres, avec une hauteur de 1,5 mètres. Avec une longueur de 243 mètres, ce pont est le plus long pont suspendu d'Indonésie, même en Asie du Sud-Est. Le long de ce pont, vous pourrez profiter de la beauté de l'étendue verte des arbres et ressentir la fraîcheur de l'air ambiant. N'oubliez pas de vous arrêter un instant pour capturer sa beauté avec votre appareil photo. En ce qui concerne la sécurité, vous n'avez pas à vous inquiéter, car des guides expérimentés sont à un moment donné de ce voyage et vous serez également équipé de ceintures de sécurité. Chers auditeurs, après avoir parcouru le pont, votre visite peut continuer vers l'exotique Curug Sawer. Le voyage à Curug Sawer peut être pris avec une randonnée légère sur 1,2 km. En arrivant à Curug Sawer, nous pouvons profiter des chutes d'eau rapides et belles. Curug Sawer a une hauteur de 35 mètres. Devant la cascade, il y a un pont pour prendre des photos avec le fond de la cascade. L'objet touristique du pont suspendu de Situgunung est équipé de diverses installations, comme une cafétéria nommée de Balkon Gede Pangrango, des toilettes et un grand parking. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel sur Situgunung Suspension Bridge à Java West. On se rencontre demain avec les sujets différents. Merci beaucoup et au revoir.
Seharusnya kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi. Tanyakan pada hatimu, baby. Masihkah kau punya rasa cinta itu?
hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi.
Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur intitulée le film Perempuan Tanah Jahanam, Femme de la Terre Maléfique, au Sundance Film Festival 2020. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. Ce soir avec moi Audrey et on se rencontre encore dans le programme L'Indonésie en couleur. Ce soir, vous allez écouter le film Perempuan Tanah Jahanam, Femme de la Terre Maléfique, au Sundance Film Festival 2020. Avec plus de 1,7 million de téléspectateurs réunis dans son propre pays, le film Wanita Tanah Jahanam est présenté en avant-première lors d'un festival international du film. Le film Perempuan Tanah Jahanam a été présenté en première au Sundance Film Festival avec le titre international Un Petit Gore. Le film devrait apparaître 5 fois, les 26, 28, 29, 31 janvier 2020 et 1er février 2020. Le Sundance Film Festival se tiendra du 23 janvier au 2 février 2020 à Park City, Utah, États-Unis. Le Sundance Film Festival est l'un des 5 festivals de cinéma les plus prestigieux et les plus importants au monde. Outre le Festival de Cannes, le Festival du film de Venise, le Festival du film de Berlin et le Festival international du film de Toronto. Un Petit Gore est devenu le seul film asiatique projeté dans le programme de minuit et devenu l'un des 2 films asiatiques produits dans l'ensemble du festival. Le programme de minuit est quelque peu prestigieux car il a projeté le film Here Dietary et The Babadook. Après Sundance, Un Petit Gore a été diffusé au festival du film de Rotterdam et au festival du film de Göteborg. Perempuan Tanah Jahanam est un film d'un éminent cinéaste indonésien Joko Anwar. Ce film raconte la curiosité du personnage Maya, joué par Tara Basro, sur l'origine de sa famille. Depuis l'enfance, vivre avec sa tante le faisait à peine vivre et rêver d'avoir beaucoup de richesses. Répondant à cette curiosité, Maya avec son ami Dini a visité le village de Harjosari, la résidence des parents de feu Maya. Avec des photos et des tripes, les fans de Tanah Jahanam ont subi un processus de production de mars à avril 2019 dans plusieurs coins de l'est de Java. « Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur le film Women of the Evil Land au Sundance Film Festival 2020. Perempuan Tanah Jahanam. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci beaucoup. Au revoir. Nous continuons notre programme avec le magazine musical. Pour ce soir, nous vous présentons une chanson traditionnelle de Java West et de Bali, intitulée Wallet. Bonne écoute. Serge Littar, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique Magazine musical, je vais vous présenter une chanson traditionnelle de Java West et de Bali intitulée Walet. Le gamelan est un instrument de musique traditionnel utilisé par les habitants de Java centrale, Java occidentale, Java orientale et Bali. Bien qu'il ait une composition de presque le même instrument, chaque région a une façon différente de le jouer. Bali et Java occidental ont la même façon de jouer au gamelan avec un rythme rapide et harmonieux. Le rythme rapide est généralement utilisé pour accompagner un tati, typique de Java occidental nommé jaipon. À Bali, il est utilisé pour accompagner diverses danses pour accueillir des invités tels que la pandette. Des musiciens régionaux de Java occidental et de Bali collaborent ensuite à leur musique qui est résumée dans une chanson intitulée Walet, chantée par Rita Tila. Chers auditeurs, voici la chanson intitulée Walet, chantée par Rita Tila. Bonne écoute.
Jambu alas, jambu ne kuning yo mas, wis lawas ketemu mani.
Kota udang Cirebonan, aku melang urung katong, jarina. Tegak temenan kue
Esok mikir
sore neng mikir yo mas sing dikikir alis woso
rame-rame tempatnya iwan mana mene gelina enak mana mene gelina enak
garang kendang kali wongo kang mas ajar tenang mumpung ketemu
kesepuhan perjimatan wis keruan tekat temenan masawan tekat temenan karo aku
semanggi lansir bayo ya mas lantang balak
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci beaucoup d'être toujours fidèles avec nous. N'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour les informations plus détaillées, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. Merci beaucoup, à bientôt.